ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est ainsi que se conclut la prière que Jésus nous a laissée, la prière chrétienne par excellence, que personnellement je ne me lasse jamais de prier. Je la crois toujours neuve. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Quand Jésus nous invite à prier, il nous met face à la tentation qui peut se présenter. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Une étude un peu fine de l'Évangile, je vais vous en faire l'économie, aussi bien du vocabulaire que de la structure, de la grammaire de cette formule, nous laisse entendre que Jésus fait référence à un événement très précis du Premier Testament. L'événement de Massa et de Meriba. Je ne suis pas sûr que ça vous dise grand-chose. Le peuple était esclave en Égypte, et voilà que Moïse répond à l'appel de Dieu en tergiversant, en hésitant. Mais finalement, il y va, et il va mener le peuple hébreu de la terre d'esclavage en Égypte, où il briquetait des briques, à la terre de liberté, la terre promise où coule le lait et le miel. C'est l'Exode, la Pâque. Mais ce passage de la terre d'esclavage à la terre de liberté va durer 40 ans. Et à un moment, ceux qui ont cru Moïse et qui se sont mis en route à l'appel de Dieu par l'intermédiaire de Moïse doutent. Dieu est-il vraiment fidèle? Dieu est-il vraiment avec nous? Est-ce que finalement nous n'avons pas rêvé, fantasmé à quelque chose de merveilleux, mais que nous aurions dû rester en Égypte? D'accord, nous briquetions des briques, nous étions esclaves, mais au moins on mangeait, on n'avait pas la télé, mais enfin c'était comme si. Aujourd'hui, il y aurait forcément la Game Boy. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Ne nous laisse pas entrer en tentation, fait référence dans la prière de Jésus à cette tentation fondamentale. Elle n'est pas tant de ne pas être gentil avec les autres, même si c'est grave, je vais y revenir. Elle est de douter de la fidélité de Dieu. Tout naît de la remise en cause de la fidélité de Dieu. Nous pourrions travailler les récits de Genèse 2 et 3. Vous pourriez les faire avec vos accompagnateurs de catéchumènes. L'histoire d'Adam et de sa femme. On n'en a eu malheureusement que quelques versets. On a coupé le centre. Mais on voit très bien que le drame qui arrive à Adam et à sa femme, au début, ils étaient bien ensemble. Tous deux étaient nus, nous dit le texte que vous n'avez pas entendu, et ils n'en avaient pas honte. L'expérience de la nudité. C'est pas rien. On s'est tous mis nus devant son médecin. Je ne sais pas si ça vous est facile. Mais je me dis, se mettre nu. La première fois qu'un homme et une femme qui s'aiment se mettent nus l'un en face de l'autre, ce n'est pas rien. J'imagine que ce n'est pas rien. Et il commençait pas, hein ? Là, je vous vois. Quelles sont les conditions? Il faut un minimum d'estime de soi. Ce que je montre est montrable. Il faut être un minimum réconcilié avec soi-même. Si je rêve d'avoir le corps du champion olympique du 50 mètres, Florent Manodou, ben c'est mort. Moi, je ne l'aurai pas. Et il faut un maximum de confiance en l'autre. Tu ne profiteras pas de ma nudité pour m'agresser, pour me violenter, pour me violer. Nudité bénie, où l'homme a le droit de se présenter comme il est, dans la confiance qu'il peut avoir en l'autre, parce qu'il sait qu'il ne sera pas trahi, et que l'autre ne profitera pas de sa vulnérabilité pour l'agresser, pour m'agresser. nudité bénie, mais qui se termine, et vous l'avez entendu, par une nudité maudite. La nudité devient un problème à la fin du récit que nous avons entendu. Que s'est-il passé entre-temps ? Il s'est passé que le serpent est arrivé, figure du malin, du démon, du diable. Le serpent. En français, c'est génial. Quelles sont ces voix qui sifflent sur nos têtes, cette voix qui s'insinue en nous ? Ne cherchez pas. Ça vous est jamais arrivé ? Au fond de vous-même, bon, je me prépare au baptême. Mais bon, une petite voix intérieure. Est-ce que tu es sûr ? Est-ce que tu ne te trompes pas ? T'as vu les cathos ? Regarde les prêtres pédophiles. Regarde. De vraies questions. J'imagine que pour vous, ça n'a pas été si facile que ça. Il faut les traverser, ces questions. Et le serpent a trompé la femme. Et la femme n'a plus fait confiance en Dieu. Et c'est de là que naît la catastrophe. Dans le récit de Genèse 2 et 3, ce poème qui ne nous dit pas comment ça s'est fait, ne vous trompez pas. La Bible ne nous dit pas comment ça s'est fait. Ne prenez pas le récit d'Adam et Ève pour un récit matériel, ça se serait passé comme ça. Ça nous dit pourquoi, c'est autre chose, c'est tellement plus important. Ça nous dit une histoire d'amour qui a été abîmée par une perte de confiance. La femme et Adam ont perdu, n'ont plus voulu faire confiance à Dieu, ils ont fait confiance au malin et alors ils ont eu honte d'eux-mêmes, ils se sont fait des pagnes, ils n'osent plus se présenter comme ils sont. On a toujours des masques, ils n'ont plus confiance en l'autre. Adam va dire c'est pas moi, c'est la femme, et la femme va dire c'est pas moi, c'est le serpent. C'est pas moi, c'est l'autre. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Moi j'ai l'impression que c'est une expérience quotidienne pour moi, malheureusement. La Bible ne fait que raconter notre histoire. Et voilà donc que ce qui s'est brisé pour Adam et la femme vient de la perte de confiance en Dieu. La tentation fondamentale, c'est de douter de Dieu. Dans la foi chrétienne, tout vient de là. C'est la tentation la plus grave, la plus profonde. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. C'est le début de la deuxième lecture. Vous avez dû trouver que les lectures, c'était dense, assez incompréhensible. Non ? Si ? Si, un petit peu, oui. Prenez le temps de lire, de relire, de prier, de méditer. Tout d'un coup, ça s'éclaire et ça devient lumineux. Mais ce que dit l'Écriture là, le péché, par le péché est venu la mort. Quand on se coupe de Dieu, parce que c'est ça le péché, je me coupe de Dieu. Souvenez-vous, au début du récit de la Genèse, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Tout homme est créé au souffle de Dieu. Tout homme est porté par le souffle de Dieu. Et voilà que le péché est ça, ce qui vient interrompre le souffle, ce qui vient étouffer le souffle. Et alors l'homme marche vers la mort, vers la tristesse, vers la relation abîmée, vers le désespoir. C'est parfois très violent, c'est parfois très sournois. Mais le péché, le fait d'arrêter le souffle de Dieu en nous, de perdre la confiance comme Adam et sa femme, amène toujours en nous à la mort de l'humanité, de la fraternité, de la charité, de la vie, de la joie, de l'espérance. La remise en cause de Dieu remet toujours l'homme en cause. La grande tentation ne nous laisse pas entrer en tentation que nous demandons à Jésus. Ne nous laisse pas entrer à Massa et Meriba. Ne nous laisse pas douter de ta présence, quoi qu'il arrive. Frères et sœurs, je me dis que c'est capital que vous entendiez ça le jour de l'appel décisif. Vous êtes 41 à vous présenter au baptême cette année. Que le Seigneur soit béni. Vous êtes un don que le Seigneur fait à l'Église de la Somme. Beaucoup plus que vous le croyez. C'est un cadeau extraordinaire que vous êtes. J'ai lu vos lettres, nous en avons parlé lors de la journée que nous avons vécue ensemble. Il y a, chaque itinéraire est unique. Il y a des coups de foudre tout à fait inattendus et il y a des histoires tissées au long des années. Et vous arrivez au baptême avec une grande joie. Et peut-être vous pourriez vous dire, ça y est, je vais être baptisé, c'est réglé. Frères et sœurs, ce n'est pas réglé. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Vous entrez par le baptême dans une vie de combat spirituel. Frères et sœurs, ce serait vous mentir que de vous dire le contraire. Si tu es le Fils de Dieu, c'était Satan dans l'Évangile, vous l'avez entendu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pierres de devenir du pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges. Parfois, on rêve qu'en Jésus, le Fils de Dieu, puisqu'on est baptisé, plus de problèmes, plus de difficultés. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'entends souvent ça des baptisés qui me disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ma grand-mère est malade, je suis au chômage, mes parents se séparent. Comme si Dieu y était pour quelque chose, mais comme si inconsciemment on se disait, puisque je suis baptisé, je devrais avoir une vie sans plus aucun problème. Frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça dans la foi. Je vous en supplie, ne vous trompez pas. Que se passe-t-il? En ce temps-là, nous dit l'Évangile, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. C'est très très étonnant. L'Esprit Saint ne veut que le bien, l'Esprit du Père et du Fils, l'amour fou du Père et du Fils, c'est ça l'Esprit Saint. Et bien qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement après le baptême de Jésus, au désert, pour être tenté par le diable. Jésus ne veut pas manipuler nos vies. Par le baptême, il ne vient pas magiquement les changer en quelque chose d'autre. S'il les changeait en quelque chose d'autre, il ne vous aimerait pas. Mais vous êtes tellement unique à ses yeux que même s'il y a des fragilités, des blessures, il vous aime aujourd'hui comme vous êtes. Et il se donne à vous pour petit à petit restaurer l'humanité en vous. Mais il ne veut pas vous changer magiquement. Alors que fait-il? Poussé par l'Esprit, il va au désert pour être tenté. Il veut venir habiter votre vie jusque dans ce qui l'abîmera, jusque dans vos doutes, parce qu'il y aura peut-être des doutes, jusque dans les épreuves, parce qu'il y aura sans doute des épreuves. Mais plus jamais vous n'y serez seul. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, a voulu partager notre humanité sans rester au seuil de nos difficultés. Il y plonge l'Esprit, l'envoie au désert pour être tenté par le diable, pour que nous soyons plus jamais seuls dans la tentation, et que dans la tentation qui se présentera, il y a sans doute des moments où vous vous direz, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que je ne me suis pas trompé en demandant le baptême? Aucun d'entre nous, carmélite, prêtre, ne traverse sa vie sans un moment se dire, mais Dieu, où es-tu? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Et alors vous entendrez l'Esprit qui vous dira, Jésus, viens avec toi. Pour traverser ce moment-là, pour te donner sa force, son espérance, pour retisser l'humanité abîmée, pour redonner la confiance perdue. Tu traverses peut-être Massa et Meriba, tu traverses peut-être la tentation par excellence, à partir de laquelle tout se découle. Quand tu doutes de Dieu, c'est la charité, c'est la fraternité, c'est la solidarité qui s'abîme dans toutes tes relations. Jésus, à ce moment-là, très précisément, veut se donner plus que jamais pour vous permettre de traverser. Oui, frères et sœurs, le baptême, qui est une joie immense, vous allez être plongés dans la mort et la résurrection du Christ, puissance de Dieu pour celui qui croit, dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. C'est une puissance inouïe, le baptême. Mais c'est une puissance d'un genre très particulier, non pas d'un genre magique à la manière dont rêve le monde, mais à la manière divine d'un Dieu qui vient épouser votre humanité pour que vous puissiez accueillir sa vie, épouser sa vie. Il y a un mystère de noces dans le baptême qui ne vient pas vous consommer, vous digérer, vous consumer, mais qui vient vous transmettre la vie, se donner à vous pour que dans votre vie vous accueilliez sa vie. Mes sœurs, si je ne me trompe, le voile que vous portez et le voile des épousailles, des noces à venir, que le Christ vient célébrer. Vous nous rappelez notre destinée. Nous sommes faits pour des noces. Et la manière dont le Christ inaugure ces noces, ce n'est pas de nous changer en quelqu'un d'autre, c'est de plonger jusque dans nos tentations, jusque dans ce qui nous abîme, jusque dans ce qui nous défigure. Alors quand vous douterez de Dieu, Frères et sœurs, n'ayez pas peur de venir au Carmel. N'ayez pas peur de venir prier un office avec les sœurs. Vous arrêtez. Maintenant, vous savez où est le Carmel. C'est un oasis de vie divine au cœur de la terre de Somme, ce Carmel. C'est un oasis de vie divine. Venez un peu à l'écart pour prier un office, pour passer une heure, pourquoi pas. Accueillir ce Dieu qui s'engage avec vous. Dans quelques instants, nous allons vivre l'appel décisif. Cet appel est absolument décisif, non seulement parce que l'Église authentifie par l'évêque l'appel de Dieu au baptême, mais parce que par le baptême, quelque chose d'absolument décisif se joue dans votre vie, bascule. Vous ne serez plus le même tout en restant le même, et pourtant tout autre. Et le Christ s'engage définitivement avec vous. N'ayez pas peur de la tentation si elle se présente. Immédiatement recourez, plongez en lui. Prenez le temps, je vous en supplie, prenez le temps de la prière. C'est là qu'il nous reconstruit pour la charité, pour la fraternité, pour la joie, pour l'espérance. Que le Seigneur soit béni.